Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on écoute les lectures d'été et les éclats de rentrée des menstruels, collectif de correspondances de femmes éparpillées en France et ailleurs. Les menstruels sont de retour et mêlent les lectures de cartes postales de l'été, des éclats de manif et des sons de la rentrée au beau milieu de souvenirs de vacances. Chill individuel entre les livres et plongé dans les organisations des rassemblements collectifs.
Menstruel, adjectif.
Cavaleuse, Fisionne, substantif,
qui a rapport au menstrue.
Argot.
Éclaté, verbe intransitif.
Clandestine, adjectif.
Hémorragie menstruelle.
Coureur de filles, coureuse de garçons.
Journal clandestin, presse clandestine.
Domaine des sensations, domaine
les
de.
Les filles sont ordinairement pubères vers l'âge de 11 ou 12
qui
ans.
Qui existe.
Entre parenthèses, trois petits points.
Fonctionne.
Se briser avec violence.
Se fait de manière secrète.
Soudaineté.
En dehors de ceux qui exercent l'autorité.
En projetant des fragments.
À l'encontre des
ballons,
lois établies.
Mine, vitres qui
l'abondance de cette évacuation périodique varie chez les différents individus.
Assemblée, démarche,
les gamins
de la procédure normale et licite.
Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux.
Emploi adjectif.
En sont les présidents.
Surtout en Espagne et en Italie.
Bon matin, le récipient dans lequel je fabriquais de l'hydrogène
m'éclatait dans mon institution et de leur manière
il ne serait pas du cavaleur.
D'un choc ou d'un changement
de l'abattement, de l'hypotension avec tendance au lipotimie.
En parlant d'un inanimé concret et abstrait.
Entre parenthèses, Rossignol, dict.darg.arg.fr et fr.arg.1901, page 24.
Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
Chères toutes, ce mois-ci, les menstruels vous lisent des extraits de leur lecture d'été. Entre chacun de ces moments, les éclats de la rentrée, le combat, la colère, l'espoir, et dans les interstices, encore se sont glissés de tout petits haïkus. Bonne écoute.
À mon réveil, j'étais tout engourdie. Je me suis étirée, j'ai bâillé plusieurs fois. Qu'est-ce que je suis en train de faire, me demandai-je. Ma compagne veillait en moi, tel un pur concept, tout regard. Pour me faire revenir tout à fait de mon lourd sommeil, elle me titilla la queue. C'est-à-dire le pseudopode postérieur qui battait inerte dans la poussière cosmique. « Mon petit Fermantio, tu dors encore ?»« Ouf ! Quel ennui d'entendre encore cette petite voix aigre, résonnant comme un paix qui sautille dans les airs. Regarde, Fermantio !» Beaucoup de choses avaient changé autour de moi. Je vais vous expliquer ça en quelques mots. Au centre de la scène, un soleil est tout autour, en une gaie myriade de cercles, des terres petites et grandes qui suivaient chacune leur route, moitié dans l'ombre, moitié dans une lumière rosée, tout le long d'orbites elliptiques. Rebroussons chemin, dis-je, troublé par cette parfaite allégresse des mondes. Mais non, répondit Grumina en me titillant de nouveau la queue. Allons, viens. Malgré mes hésitations, nous recommencions à avancer. Ma compagne, avec son glapissement habituel, me disait qu'il était temps que nous nous distinguions mieux en nous lançant dans une nouvelle aventure. Une sorte de vent nous poussait et il était agréable de tracer dans le ciel de légers sillages qui se dissipaient aussitôt. Sans le savoir, nous répandions autour de nous une semence qui allait se révéler à notre insu, triste, funeste et empestée pour tout le monde. Attirée par des volutes de gravitation éparses, ça et là, nous nous trouvions sans le moindre effort au-dessus d'une terre qui allait devenir ensuite ma demeure, recouverte d'une vaste mer, de forêts infinies et de rochers et de montagnes changeantes. Nous nous enfoncions dans une matière aérienne où nous nous perdions presque. Disparition, réapparition, comme des étoiles filantes, nous descendions toujours plus bas jusqu'à atteindre une chaîne de montagnes que je décidais d'appeler Camuti, afin de la distinguer des autres reliefs. Là-bas, au creux d'une vallée, j'aperçus pour la première fois un torrent qui se transformait en un doux écoulement d'eau. Je crois que l'on va être bien ici, disait ma compagne. Juste au-dessous de nous, il y avait une crevasse avec des capres, de la pimprenelle et des mousses qui se glissaient dans les fissures des pierres. Moi, je m'arrête ici, observai-je.
On pourrait lire un peu les premières phrases d'une journée type de cuisine collective. J'essaye ça. La veille, les courses sont faites et chargées avec le matériel dans un véhicule. À 9h, une personne peut lancer la cuisson des protéines de soja. Les réserver. De 9h à 10h, disposer le matériel aux endroits où il sera utilisé. À 10h, mettre l'eau à chauffer sans sel en couvrant avec un couvercle. De 10h à 10h30, dès la fin de la cuisson, des protéines de soja. Et même si la découpe des oignons n'est pas tout à fait achevée, une personne peut s'occuper de commencer à faire revenir ceux qui sont déjà prêts. À partir de 10h30, mélanger les oignons qu'on a fait revenir. De 11h à 11h30, dans un saladier, mélanger la poudre d'amande, la levure de bière et l'ail semoule. À partir de 11h30, annoncer à la cantonade que le repas sera prêt pour midi. 11h40, lancer la cuisson des pâtes. À partir de midi, écouter les pâtes et les verser dans un bac. Pendant le service, 2 personnes seulement sont nécessaires. Les hôtes peuvent se tenir prêtes pour anticiper les roulements de matériel.
On est à la cantine populaire d'Aubenas. Et ce matin, on a fait des gâteaux pour les emmener à la manif qui va se passer entre les ronds-points. Et c'est déjà ce qu'on a fait la semaine dernière. On a fait des gâteaux pour les gens qui étaient sur le rond-point depuis 7h du mat. Et voilà, on va arriver avec plein de gâteaux, une boîte à prix libre pour la cantine pop. Et voilà. La cantine pop, c'est un endroit où tous les samedis, des gens peuvent venir cuisiner bénévolement à 9h et manger à prix libre à midi et demi. Et souvent, ça réunit plein de monde et c'est un endroit qui est ouvert aussi pour plein d'assos et d'initiatives qui auraient besoin d'un local.
Et on peut juste peut-être prendre une boîte pour la fin pour tout mettre.
Il y a un peu de monnaie, il y a déjà 2 euros. Là, il y a des billets, il y a 2, 4, il y a 3 pièces de 2, 2 pièces de 1.
Ben, la semaine dernière, sur le rond-point, on était 1000. C'était vraiment blocage, rassemblement âgé sur le rond-point. Il y a eu un peu des... Et la manif intersyndicale qui rejoignait le rond-point. Et après, il y a eu un peu des actions. Et là, ce qui était proposé, c'était une occupation. En tout cas, de se retrouver sur le rond-point avec un accueil petit-déjeuner et tout ce matin. Et là, c'est une manif festive déguisée entre plusieurs ronds-points. Donc, je sais pas combien de personnes ça va ramener, mais j'ai hâte de voir. Mais je pense que tous les gâteaux vont être mangés.
Et couper avec une spatule ?
Non, je pense que d'abord, on va se poser, couper avec une spatule plein de parts et après faire le tour. Comme ça, les gens se servent et t'as pas besoin de faire des manips folles.
Super. Juste, nous, on est la table ambulante. Mm-hmm. Ça. Allez, zou.
Là, je te laisse te servir.
Ouais, attention. C'est quoi le plus conseillé ?
Ce que tu peux.
Il y a la pâte.
Ah,
c'est manger, c'est là pour l'instant. Mais c'est bon.
Merci beaucoup. Merci. Il y a beaucoup de monde là. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a beaucoup plus de monde que la dernière fois.
Ouais.
Et ils se sont dit qu'il fallait absolument qu'on se compte parce que sinon demain dans les infos il y aura écrit qu'on était 500 à Aubenas. Mais là on est quoi? Si la dernière fois on était 1000, là on est au moins 3000, non? On est 3 fois plus, je sais pas. Peut-être j'abuse.
Vous n'arriverez pas à les manger, vos gâteaux?
Non, on a besoin d'aide. Vous en voulez? C'est à prix libre, on l'a fait à la cantine populaire.
Vous savez comment elle est sous sous?
Dans ma... Oh là, allez, vas-y. Merci. Hop là. C'est juste ici.
Allez, un petit bout. Il a l'air bon un peu. Ça.
Alors, comment on va faire? Ah, ça fait... En fait, on aurait dû l'entamer.
On va lancer l'Assemblée Générale. On va essayer de se serrer, de s'asseoir comme on peut pour ceux qui peuvent. On a de l'eau, s'il y a des gens qui veulent de l'eau, on va passer avec des bouteilles. Voilà, et de plus, s'il y a des camarades qui n'osent pas prendre la parole, ils peuvent venir voir notre camarade pour porter le message. Et elle s'occupera de le dire au micro.
Là, on a déjà vendu beaucoup, du coup, maintenant, c'est plus pour la cantine, c'est pour la caisse de grève. Parce que les frais sont remboursés, enfin, les courses qu'on a faites pour faire les gâteaux sont remboursées. Et l'objectif, c'est de faire pour la caisse de grève, et merci beaucoup. Et ça s'est fait très vite, en fait. Donc, je pense qu'il va y avoir pas mal d'argent pour la caisse de grève, c'est sûr.
On va revenir à la question comment amplifier, structurer et élargir la mobilisation et la grève pour gagner.
Bon, François a tout dit, je pense. C'est vrai qu'on est dans la rue parce que, quand même, notre cher gouvernement, la Macronie, ne cesse, je le répète, de faire que des cadeaux à ce que nous appelons les assistés, la grande bourgeoisie, le grand patronat. Voilà. 211 milliards, il faut se le répéter dans le cerveau quand même. Hein. C'est pas rien, c'est quasiment presque 40% du budget de l'État. C'est pas quelconque. Je voudrais revenir maintenant, comme j'ai été syndicaliste dans ma jeunesse, puisque je suis retraitée, le mouvement, je suis assez optimiste, il va s'amplifier. Alors, je pense qu'il va falloir aller devant les entreprises, si petites soient-elles. Comme l'a dit un camarade, sans bloquer les salariés, il faut travailler à la conscience humaine et dans le bon sens. Pas les uns contre les autres, la paix entre nous, parce que notre adversaire c'est vraiment le capitalisme, je suis désolée, ce n'est pas un gros mot, c'est le capitalisme qui gère la planète, qui détruit la planète d'ailleurs, et qui gère le grand patronat, gère en France, voilà. Mais je pense surtout que, je le répète, le mouvement à mon avis va s'amplifier, on va avoir besoin d'être ensemble. Parce que, on le sait, ils ne vont cesser de nous faire passer pour des bandits, alors que les bandits, c'est eux. Voilà. J'en ai assez dit. Le combat doit continuer tranquillement, ensemble et dans la paix.
Il faudrait que les personnes qui veulent rester sur le rond-point cet après-midi pour les débats lève les mains et sachez que après je vais faire un vote pour les personnes qui veulent bouger, foutre le bordel en centre-ville. Ne vous inquiétez pas, on est dans le cadre légal de la déclaration de la manifestation. Qui veut rester au rond-point pour les débats? Levez les mains. Levez les mains et faites du bruit. Ce sera plus... Super. Et on fait la même chose maintenant pour aller foutre le bordel en centre-ville. 1, 2, 3, on vote. Je pense que là, il va y avoir juste la pause repas. À 13h pile, on peut se dire rendez-vous au rond-point pour un départ pour le centre-ville. Ça va à tout le monde?
Yeah.
Chères toutes, après ce chaud été, j'espère vous retrouver en forme pour entrer dans l'automne qui nous ouvre déjà grand les bras. Septembre a été pour moi la grande apogée. J'ai terminé un documentaire sur un espace sombre et humide qui ne demande que des oreilles pour mieux entendre le fond de la terre. Ici, un groupe d'habitués se retrouve avec des frontales, des casques, des combinaisons, des mousquetons et des cordes. Et tout un tas de sacs étanches. Depuis que j'ai rencontré un spéléologue et pratiqué un peu en Ardèche, je me demande furieusement pourquoi on va sous terre. Je vous livre ici quelques éléments de réponse sonore, glanés sur le plateau du Vercors à l'été, où j'ai rencontré notamment Rémi Limagne. Je vous embrasse, il me tarde de vous revoir.
Hop, on va descendre. Là, on entend le descendeur. Passage de déviation. On descend de 25 mètres dans ce puits. Et on arrive à la côte. Moins 83. Dans ce qu'on appelle la salle du cairn.
Bonjour, je suis Rémi Limagne. Alors, je fais de la spéléo depuis 60 ans.
Et voilà.
Moi, c'est mon père qui, quand j'avais 12 ou 13 ans, m'a emmené dans une carrière souterraine avec une lampe de poche. Sans savoir pourquoi, je me suis dit, c'est là que je dois être. À la rentrée scolaire, quand j'étais en quatrième, j'avais dit à ma professeure principale, qui posait la question habituelle à l'époque, quel métier vous voulez faire, et ben j'avais écrit spéléologue.
Un beau cairn. Il est grand, il est beau. Hein.
Quand elle a lu ça, elle a écarquillé des yeux. Voilà. Mais ça ne m'a pas lâché. Et puis, depuis 2012, je me suis lancé dans l'organisation de ces camps bergers. On peut pas envoyer 500 personnes dans une cavité pareille sans précaution. Donc, il y a une organisation peut-être rigide, mais en tout cas qui a porté ses fruits. Donc, chaque soir, effectivement, à 18h, on réunit les gens présents et on fait un planning entre le groupe qui va descendre à 5h du matin, le groupe qui va descendre à 6h, 7h, 8h, voilà. Donc ça s'organise au moment du planning. Le massif du Vercors, c'est quelque chose de prestigieux pour tout spéléologue, parce qu'il est entièrement composé de calcaire, et donc creusé de multiples gouffres. Mais quand je dis multiples, c'est beaucoup, 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 hein, des centaines. Dont plusieurs sont intéressants parce que plutôt larges, plutôt profonds, plutôt jolis. Hein. Par contre, il y en a effectivement aussi des dizaines qui se présentent aucun intérêt, où il faut ramper dans la boue, etc. Mais quand même, c'est un petit peu la Mecque de la spéléo ici, avec le point d'orgue, c'est le gouffre berger, quoi. Il est souvent qualifié de mythique. Alors, je ne sais pas si le qualificatif est bien choisi, mais en tout cas, il a une origine. C'est que c'est le premier gouffre dans lequel on a atteint la profondeur de moins 1000 mètres en 1956. Alors maintenant, il y en a plusieurs dizaines des gouffres qui dépassent les 1000 mètres de profondeur, mais le premier, c'est le gouffre berger. Et ça, on ne lui retirera jamais. Historiquement, c'est le premier moins 1000 qui attire autant de personnes.
L'oubli. Sur l'autre rive de la nuit, l'amour est possible. Emporte-moi. Emporte-moi parmi les 12 substances qui meurent chaque jour dans ta mémoire. D'accord ?
D'accord.
D'accord.
Je me retrouvais plante de bourrache, sans que ma volonté y fût pour quelque chose. Cela advint. Je poussais sur des saillies noires et aiguës, attaquées déjà par les premiers lichens. J'étais tout attentif à recueillir des humeurs pour faire enfler, jusqu'à la bonne limite, certains bourgeons qui étaient en train de pousser, sans m'accorder de répit, sur mes chairs recouvertes d'épines subtiles. « J'aurais aimé savoir comment j'avais pu quitter un seuil pour en franchir un autre. Je voulais atteindre à la compréhension de cette nouvelle sphère de mon existence, mais il ne m'était pas possible de coordonner le passé, car j'étais prise au piège de mes tâches urgentes. Un jour, tandis que de toutes parts s'étalait un calme très profond, je m'entendis appeler « Sénapo ! Sénapo !» Et bien sûr, je ne me retournais pas, ne pouvant pas comprendre qu'il s'agissait de moi. J'étais penchée sur mes bourgeons et je les comptais même. 1, 2, 3, 4, etc. Me livrant à un calcul assez sévère, lorsque la même voix se fit entendre. « Sénapo ! Sénapo !» Southern trees bear strange fruit, blood at the leaves and blood at the black body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, the scent of magnolia.
Salut toutes, je vais vous lire un chapitre d'un livre que j'ai lu cet été. La couverture est très belle, c'est un visage sombre qui laisse entrevoir un œil et des lèvres roses derrière une... comment je pourrais nommer ça ? Un rideau de feuilles. Chapitre 27. Lors de la discussion avec Picania dans sa cabane, le fils de Maya s'est rappelé le rêve qu'il avait fait quand il se rétablissait sur le ponton flottant. Les paquets que lui et ses cousins transportent dans un sac à dos que le balafré leur a donné. Il sent qu'il les a déjà vus quelque part. Perturbé aux prises avec l'étrange sensation laissée par le souvenir, il se dirige vers la berge pour entreprendre la remontée de la rivière. Ils feront comme convenu. Ils emmèneront la cargaison jusqu'au Jarapi, la remettront à l'ami de Picania et empocheront l'argent en retour. Le fils de Maya trouve que ce n'est pas beaucoup, mais ses cousins ne sont pas d'accord. Ce sera assez pour acheter des vêtements neufs et 3 téléphones portables qu'ils se partageront, en plus des perles, qu'ils offriront à leur mère. Grâce à l'avance que Picania leur a donnée, ils ont payé l'essence et fait des courses, puis ils se sont mis en route au petit matin. Le fils de Maya est assis à la proue, tandis que ses cousins pilotent le moteur à l'arrière. Le soleil brûlant perce le rideau encrassé de fumée. Ils ont du mal à voir les autres pekepekes qui traversent la rivière. Ils croisent aussi des barges emportant leur chargement, des troncs et encore des troncs arrachés au fin fond de la forêt. Le fils de Maya n'y prête pas attention. Il ne ressent rien pour les arbres emportés loin d'ici, couchés et empilés. Il s'y est habitué et puis son esprit est tout entier dans les paquets. Il se doute qu'ils contiennent un truc plus précieux, même s'il a préféré ne pas le montrer. Devant Picania, il a joué l'idiot, le petit indien stupide qui se contente de la somme proposée. En fin d'après-midi, quand la circulation des pirogues et des hors-bords diminue et qu'ils atteignent la zone la plus éloignée de la rivière, les cousins trouvent un endroit où installer leur campement et dénicher des œufs de tortue enfouis dans le sable. Ils ont évité le poste de contrôle, empruntant un raccourci peu connu qui débouche plus loin sur la rivière. plus tard dans la nuit, l'un des cousins propose d'ouvrir un paquet et ça tourne vite à la dispute, car ce n'est pas l'accord convenu et qui sait ce qui arrivera s'il ne le respecte pas. Le fils de Maya dit qu'il sait ce que contiennent les briques noires et s'il ne se trompe pas, il pourrait obtenir bien plus d'argent que ce que Picania leur a promis. « On n'est pas des crétins d'Indiens comme ils pensent », ajoute-t-il. « On est nous, on fait les choses à notre manière. » Après quelques regards, il décide de pratiquer une toute petite entaille à l'un des emballages. Un cousin le perce avec la pointe de son couteau et l'éclat blanc apparaît à travers le scotch. Le fils de Maya gratte le bloc brillant et montre aux autres comment utiliser la poudre parce qu'il a déjà vu faire les types avec qui il boit et joue au foot en ville. La force monte par ses narines et vient se loger au sommet de son crâne pour très vite laver toute la fatigue et la tristesse de sa chair, la remplir d'une assurance inédite. Les autres veulent essayer à leur tour et toute la nuit ils absorbent le temps dans la braise des cigarettes et des mots bafoués, gaspillés dans le vent. Ils se croient les meilleurs, se foutent de Picania, des types qui ont tabassé le fils de Maya, des filles de la ville, de leurs cousines timides au village, de tout le monde. Ils n'arrêtent plus. Le fils de Maya voit le jour arriver debout au bord de la rivière, au moment où toute cette certitude s'étiole, où sa poitrine est saisie par le chagrin, par le revers de la force que la poudre prétend offrir. Des mots étranges résonnent dans ses oreilles. Il les répète dans sa tête sans vraiment les comprendre, tandis qu'il regarde le soleil se lever au-dessus de la canopée, effaçant une nuit qui n'a pas eu lieu. Ses mains tremblent, le bout de ses doigts est jauni par les cigarettes qu'il consume au-delà des filtres, sa gorge anesthésiée, sa mâchoire coincée. Voilà. C'était un extrait du livre « Les vautours n'oublient pas » de Pedro Cesarino. C'est un livre traduit du brésilien, cette année, je crois.
J'ai toujours aimé les voix espagnoles et rauques. Je suis dans le train, et assise devant moi, il y a une femme aux cheveux noirs, tirés en chignon. Elle cache son regard derrière de grosses lunettes noires, et porte un rouge à lèvres violet foncé. Et à sa droite, une femme plus âgée, sûrement sa mère, et assise bien droite. Elle tient son sac sur ses genoux. J'ai l'impression d'être dans un film d'Almodovar. Je me demande où elles vont. Je rentre de manif, je suis encore toute retournée.
Donc ils s'organisent en vélo aussi, c'est ça? On nous a demandé matin, plein de vélos.
Ouais, ça a commencé à tourner à vélo, mais tout doucement. Et au fur et à mesure,
ça a commencé à bloquer comme ça,
et après c'était bon.
Ok. Je vais leur demander comment ça se passe, en fait, je comprends pas bien. Excusez-moi. Du coup, ils relibèrent un peu le trafic de temps en temps?
Ouais,
c'est ça? C'est qui? C'est là-bas? Ou c'est à tour de rôle?
Non, ça se fait sans coordination.
Écoutez, si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas. Mais je sais bien, mais en fait, le but, c'était ça, une journée de blocage, et normalement, on sort pas. Eh bien, nous, on le loupe. Je suis ouvrière agricole et je loupe une journée, parce qu'il y a des choix à faire dans la vie. Mais je sais bien. Voilà, mais oui, on fait ce qu'on peut, et du coup, là, on essaye quand même de faire un peu d'effet. On va pas le faire tous les jours, ça nous amuse pas complètement non plus. Bah oui, ah oui. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir avec nous, là? On commence à se faire emmerder gentiment. Marie, faut qu'on y aille, là, ils vont être chiants. Vamos! Qui a du sérum fi? C'est vous qu'on a vu là à gauche, ouais. Ils vous ont poussé contre la voiture.
Faut y aller les gars là.
On arrive de. Ils ont gazé là. Il y a 7 ou 8 camions de CRS.
Ouais.
Ils les ont bloqués au rond-point des RAGT, nous on était devant, ils en ont gazé à bout portant comme ça. Et après plus loin dans la rue, on s'était dit qu'il fallait qu'on se disperse dans les petites rues. On ne l'a pas fait, ils se sont tous fait coincer, les flics sont arrivés des deux côtés, et là, ils sont en train de les resserrer comme ça.
Il est nasse encore, là ?
Oui. Il y a des gens ici qui sont dans des situations administratives, judiciaires, etc., que s'ils donnent leur identité, direct, ils partent. Et que du coup, par solidarité, c'est une bonne chose que de ne pas avoir ses papiers, de ne pas donner ses papiers.
Tu peux refuser.
C'est pas un délit de ne pas donner son identité. Ils ont 4 heures pour vérifier votre identité, c'est-à-dire ils vont appeler la mairie de là où vous êtes né, ils vont chercher par tous les moyens de savoir si c'est bien vous. Des fois, ils n'ont aucun moyen de savoir, c'est pas le bonjour, la mairie elle est fermée, blablabli, blablabla. Et du coup, ils ne vous retrouveront pas. Et si vous dites rien, bah en fait, au bout de 4 heures, s'ils n'ont rien à vous reprocher, vous sortez.
Excusez-moi, on a des camarades qui sont assez, on fait quoi ? Est-ce qu'on est assez nombreux pour y aller ? Est-ce qu'on laisse...
Pardon, excuse-moi.
Je suis pas susceptible, je suis hypersensible. Mes émotions sont des messagères, femme noire mais pas en colère. C'est pas mes rivières pourpres qui noient mon amour propre. C'est les peurs qui rassurent, les phobies qui structurent, les corps qui raturent. La voix dans les aigus fragilise, lâcher prise qu'on hystérise. Interdiction de hausser le ton. Reste dans le cadre, la femme trompe.
Kemi kemi, kemi kemi, oulé oulé. Kemi kemi, kemi kemi, oulé. J'ai un cancer, il sert fort, et aujourd'hui, je suis ser mi. Et tout le dia, t'as si, mien, à vos campos minado. Un sentire, cu sorte, pa monte en Costa Rica.
C'est pas des stories mais des notes de mon journal extime. Mon intime pour les autres, mis en scène comme en vitrine. Est-ce que tu crains les backlash, les retours de boomerang, les femmes multitask, vues sous un autre angle, condamnées à être des femmes puissantes, héroïnes. Érigé en icône, mais on peut être résiliente sans avoir des valeurs de bonhomme. Image d'Amazon et de guerrière. L'empathie est un mauvais critère. On te drille, 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 drille. Pas de tache de sang, pas de tache d'huile.
Emi kemi, emi kemi, oulé oulé. Emi kemi. Emi kemi, emi kemi, oulé oulé. Emi kemi, emi kemi, oulé. J'ai un cancer, il sert fort, et aujourd'hui, je crois ser mi. Et tout le dia, t'as si, mien, à vos campos minado. Un sentire, cu sorte, pa monte en Costa Rica. Cusé qui boja na mi, un ami a son tormento.
Sous la poitrine, le cul contre le mur, on rétrécit d'une pointure pour éviter les frotteurs, des heures de pointe absorbées par son écran, inaccessible et hors d'atteinte, à fleur de peau. Donc à quand, jusqu'à quand, s'étendre un miroir à mon malaise, creuser un fossé entre deux chaises, répondre à cette impunité archaïque. Les hommes possèdent l'espace public. Interdiction de hausser le ton. Reste dans le cadre, la femme trompe.
Emi kemi, emi kemi, oulé oulé. Emi kemi, emi kemi, oulé oulé. Emi kemi, emi kemi, oulé oulé. Emi kemi. J'ai un cancer, il sert fort, et aujourd'hui, je crée son cerni. Et tout le dia, t'as si, mien, à vos campos minados. Un sentire, cu sorte, pa monte en Costa Rica. Cusé qui boja na mi, un ami a son tormento.
Une
Je vais lire un extrait de Ursula Le Guin, du livre Le langage de la nuit, L'enfant et l'ombre. Un extrait du chapitre L'enfant et l'ombre. Il était une fois un jeune homme aimable, timide et savant, qui venait des pays du Nord et qui alla visiter les chaudes contrées du Sud, là où le soleil brûle et où les ombres sont très noires. Juste en face de la fenêtre du jeune homme, de l'autre côté de la rue, il y avait une maison dans laquelle il aperçut une charmante jeune fille qui arrosait les fleurs sur son balcon. Un soir, une chandelle brûlait derrière lui et projetait son ombre jusque sur le balcon d'en face. Il dit à son ombre en plaisantant de ne pas rester là, d'entrer dans la maison. C'est ce qu'elle fit, l'ombre. Elle se sépara de lui et entra dans la maison. Qui sont l'homme et son ombre ? L'homme et la civilisation. Il est érudit, aimable, idéaliste, respectable. L'ombre est tout ce qu'il faut réprimer pour devenir un adulte respectable et civilisé. L'ombre est l'égoïsme contrarié de l'homme, les désirs qu'il n'ose avouer, les jurons qu'il n'a pas prononcés, les meurtres qu'il n'a pas commis. L'ombre est le côté obscur de son âme, l'inavouable, l'inadmissible. Ce monstre est une part intégrale de l'homme, et l'homme ne peut l'ignorer s'il veut entrer dans la maison de la poésie. L'homme commet l'erreur de ne pas suivre son ombre. Elle part au-devant de lui, tandis qu'il demeure assis à sa fenêtre. L'ombre entre dans la maison de la poésie, qui est source de toute créativité, et elle le laisse à l'extérieur, à la surface de la réalité. Quand l'ombre revient auprès de l'homme d'âge mûr, elle lui offre une nouvelle chance. Une fois de plus, il ne la prend pas. Ainsi, tout bon et érudit qu'il soit, il ne peut faire le bien, il ne peut agir, parce qu'il s'est déraciné lui-même. L'ombre est tout aussi impuissante. Elle ne peut aller plus loin que l'antichambre obscure et ne peut pénétrer dans la chambre illuminée. Ni l'un ni l'autre ne peut approcher seul de la vérité. Le moi et l'ombre sont encore assez mal définis chez l'enfant. Il peut très bien trouver son moi dans une coccinelle et découvrir son ombre cachée sous son lit. Je crois que lorsque la conscience de soi commence à émerger, juste avant l'adolescence, puis pendant l'adolescence, souvent de façon presque écrasante, l'ombre se manifeste elle aussi et devient de plus en plus sombre. L'adolescent normal cesse de se projeter avec l'allégresse des petits-enfants. Il se rend compte que tout n'est pas toujours la faute des gros méchants qui portent des chapeaux noirs. Il commence à accepter la responsabilité de ses actes et de ses sentiments, ce qui implique d'accepter en même temps une immense culpabilité. Il croit que son ombre est beaucoup plus noire, beaucoup plus maléfique qu'elle ne l'est en réalité. Ce n'est qu'en regardant directement son ombre, en affrontant toutes les verrues et les dents pointues, tous les boutons d'acné et toutes les griffes acérées de son ombre, que l'adolescent pourra surmonter tous les reproches qu'il se fait à lui-même, tout le dégoût qu'il éprouve pour lui-même. Car l'ombre est en lui, elle fait partie de lui. Elle représente ce qu'il y a de plus laid, et non ce qu'il y a de plus faible. Car l'ombre est un guide. Elle indique comment entrer en soi et comment en ressortir, comment descendre en soi et comment remonter. Autrement dit, l'aller et le retour, comme l'écrivait Bilbo le Hobbit. Elle est le guide du grand voyage vers la connaissance de soi, vers l'âge adulte, vers la lumière. Lucifer signifie « porteur de lumière ».
Ce n'est pas tous les jours que l'on devient vautour, là-haut, dans les terres de Kamuti. Et comment vous dire le plaisir qu'on éprouve à battre l'air d'une aile puis d'une autre ? Bien, me disais-je, et qui l'aurait imaginé ? J'étais un peu gênée, pas encore habituée à la souplesse de mon nouvel être et à l'inconcevable subtilité du vide qui s'ouvrait tout autour de moi. Voilà pourquoi je restais, je l'avoue, un peu ébahie, suspendue dans ce balancement doux et très léger. « Oh oh !» me disais-je encore. Cette exclamation n'était pas seulement le fait de mon étonnement, mais c'était aussi une manière de me reconnaître dans le mélange de tous les éléments qui me composaient. Cependant, je regardais autour de moi, puis vers le bas, dans la vallée, où rien ne me paraissait semblable à ce que j'y avais laissé, et je riais à la pensée d'avoir pris dans le passé, comme mesure et modèle, ces simulacres de plantes très lointaines. Je suis libre et je peux aller là où je veux. C'était des extraits de La Divine Forêt de Giuseppe Bonavieri.
Comment trouver sa propre porte dérobée qui donne accès à l'inconscient collectif ? Eh bien, la première étape est souvent la plus importante. Celle-ci consiste à faire demi-tour et à suivre son ombre. L'ombre se développe en parallèle avec le moi. Par conséquent, un enfant n'a pas vraiment d'ombre, mais son ombre devient de plus en plus prononcée au fur et à mesure que son moi devient plus stable et plus grand. Tout le monde a une ombre, et moins elle s'incarne dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. Autrement dit, moins on la regarde, plus l'ombre est forte, et elle finit par devenir une menace, un fardeau insupportable, un péril pour l'âme. Si elle ne peut pénétrer dans la conscience, l'ombre se projette vers l'extérieur, vers les autres. Ce n'est pas moi, c'est la faute des autres. Je ne suis pas un monstre, les autres sont des monstres. Les étrangers sont dangereux, les communistes sont des criminels, les capitalistes sont des bourreaux. Mais maman, c'est le chat qui a voulu que je lui donne un coup de pied. Si l'individu veut vivre dans le monde réel, il doit cesser de faire des projections et admettre que la haine et le mal existent en lui. Cela n'est pas facile, mais c'est très difficile de ne pas pouvoir blâmer les autres. Mais cela en vaut la peine. S'il apprend à gérer son ombre, il a accompli quelque chose de réel pour le bien du monde. Il a réussi à assumer au moins une part infinitésimale des problèmes sociaux gigantesques et irrésolus de notre temps.
E così fu luce esatta. Si convinse d'aver trovato la sua dimensione vitale, il non sapere, il non vedere, il non capire. Et c'est ainsi qu'il y eut la lumière exacte. Il était convaincu d'avoir trouvé sa dimension vitale. Ne pas savoir, ne pas voir, ne pas comprendre.
Oriamu pisulina te galanta.
D'un truc qui s'est passé en 1880, que c'est un mec qui s'appelle Paul Lafargue, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le droit à la paresse. En gros, dans ce bouquin, il explique que les ouvriers, les travailleurs ont intégré que que tu n'existes que à travers le travail. Et que la seule chose qui te donne un peu, quelque part, le droit d'exister, c'est si tu travailles et si tu es un être productif. Qu'est-ce qu'on pense? Comment on voit les choses? La vraie bataille, elle est aussi dans les idées. L'être humain, il n'a pas envie de bosser, les gars. Depuis que je suis gamin, je suis feignant. Tout le monde est feignant. Ma fille, elle est feignante. Tout le monde. On n'a pas envie de bosser. Par contre, quand on bosse, on est capable de faire des choses extraordinaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser du tout. Ça veut juste dire qu'il faut bosser pour faire des belles choses. Et en fait, personne n'en veut et on balance la moitié. Ça sert à quoi? On va niquer la planète, on va niquer nos vies, on va niquer nos corps. On va tout niquer. Pourquoi faire? Pour satisfaire l'appétit d'une bande de poignées de mecs qui n'ont jamais bossé de leur vie? Non merci, en fait. Non merci. Et c'est nous la masse, on est les plus nombreux. Donc je vous invite, les amis, à lire ce bouquin incroyable écrit en 1880 de Paul Lafargue. Le droit à la paresse, les amis. Lisez-le, c'est fulgurant. Merci de votre attention. Merci.
Alors j'avais envie, en écho à ce qu'on vient d'entendre, de vous lire un extrait du livre de Joseph Pontus, À la ligne. C'est un livre qu'il a écrit en travaillant à l'usine. Donc je prends un passage au hasard. Ça a débuté comme ça. Moi j'avais rien demandé, mais quand un chef à ma prise de poste me demande si j'ai déjà goûté du tofu, je vois le nombre de palettes et de palettes et de palettes que je vais devoir égoutter tout seul, et je sais par avance que ce chantier m'occupera toute la nuit. Je me répète les mots sans trop y croire. Je vais égoutter du tofu cette nuit. Toute la nuit, je serai un égoutteur de tofu. Je me dis que je vais vivre une expérience parallèle dans ce monde déjà parallèle qu'est l'usine. Je pose le cadre. Il est 14h30. Je sors de ma nuit m'étant couché vers 8h. Je dois embaucher à 20h30 et débaucher à 5h. L'agence d'intérim m'appelle, changement de programme et d'horaire. De 19h jusqu'à 4h30, ce qui, en comptant la demi-heure de pause quotidienne, me fera un bon 9h de boulot. Je ne serai pas au poisson pané, mais au plat cuisiné que mon usine produit aussi. Je commence à travailler. J'égoutte du tofu. Je me répète cette phrase comme un mantra. Presque. Comme une formule magique, sacramentelle, un mot de passe, une sorte de résumé de la vanité de l'existence, du travail, du monde entier de l'usine. Je me marre. J'essaye de chantonner dans ma tête, il y a de la joie, du bon traîner pour se motiver. Je pense que le tofu c'est dégueulasse et que s'il n'y avait pas de végétarien, je ne me collerais pas ce chantier de fou de tofu. J'échafaude des contrepets qui me semblent bien sonner. Égoutteur de tofu et fauteur de dégoût. Les gestes commencent à devenir machinaux. Cutter, ouvrir le carton de 20 kg, mettre les sachets de 3 kg sur la table de travail. Cutter, ouvrir le sachet, mettre le tofu à la verticale sur un genre de passoire horizontale en inox d'où tombe le liquide saumâtre. Laisser le tofu s'égoutter un certain temps. Les heures passent et ne passent pas. Je suis perdu. Je suis dans un état de demi-sommeil extatique. Veille paradoxale. Comme lorsque l'on s'endort et que ses pensées vagabondent, au gré du travail de l'inconscient. Mais je ne rêve pas. Je ne cauchemarde pas. Je ne m'endors pas. Je travaille. J'égoutte du tofu. Je me répète cette phrase comme un mantra. Je cherche le contrepaix que j'avais trouvé tout à l'heure, mais je ne le retrouve plus. Je me dis qu'il faut avoir une sacrée foi. Dans la paye qui finira bien par tomber, dans l'amour de l'absurde ou dans la littérature, pour continuer. Il faut continuer. Égoutter du tofu. De temps à autre, aller aux poubelles. La pause arrive à 1h10 du matin. Elle sera jusqu'à 1h40. Je ne sais pas si c'est légal d'avoir une pause plus de 6h après sa prise de poste, mais je m'en fous. Il restera 3h d'égouttage de tofu. Clope, café, clope. Un sneakers, clope. Un texto de mon épouse qui pensait à moi à 23h. Je souris tendrement. Si elle savait. Mais c'est l'heure. Une dernière latte de clope, histoire de dire « T'as vu l'usine? T'as vu le tofu? Tu ne mourras pas. Pas ma dernière clope. Mon cul. » Je l'écrase bien vite. Le vestiaire en urgence, la tenue, la pointeuse, c'est reparti. J'égoutte du tofu, encore 3 heures à tirer. plus que 3 heures à tirer. Il faut continuer. J'égoutte du tofu. Je vais continuer. Je vais continuer. La nuit n'en finit pas. J'égoutte du tofu. La nuit n'en finit plus. J'égoutte du tofu. J'égoutte du tofu.
Son seul de mer.
Ça m'énerve, puis les gens qui te donnent des leçons, là. Je me dis pas d'aller bien. Après, j'ai un froid, mais je sais pas, j'ai une petite envie. Après, est-ce que je vais me tailler? Tant pis. J'ai pas grand-chose en... J'ai trop envie. Je vais peut-être pas mettre de soutif, comme ça. T'as pas envie?
Chemin de neige profonde, où je vais, d'où je viens, se confondent. Nakamura Kusatao.
Baleine à bosse, flâne et vol, n'emporte pas l'air.
Paupières closes, le soleil tombe en moi. Cécile A. Oldban.
En fait, c'est un B, un D. Très, très, très court, hein?
Ouais, c'est un haïku, hein.
Tu sais demander des haïkus ?
Que veux-tu que je te dise, Cécile ? Je ne connais pas de haïku et ne saurais en inventer. Point.
Le moi tourne autour de la psyché, comme la terre autour du soleil, dit-il. La psyché est transcendante, beaucoup plus vaste que le moi. Elle ne nous appartient pas en propre, car elle est collective. C'est-à-dire que nous la partageons avec tous les autres êtres humains et peut-être avec tous les autres êtres vivants. Cela correspondrait éventuellement au lien qui nous unit avec ce que l'on pourrait appeler Dieu. Tout cela semble sans doute bien mystique, elle l'est. Mais en même temps, cette description est exacte et pratique. D'un point de vue fondamental, nous nous ressemblons tous. Notre psyché présente chez chacun d'entre nous plus ou moins les mêmes tendances et la même organisation, tout comme nous avons tous des poumons et un squelette plus ou moins similaire. Tous les êtres humains sont à peu près les mêmes et pensent et sentent de façon similaire, et tous appartiennent à l'univers. Le moi, cette petite conscience individuelle et privée, le sait. Et c'est aussi que pour éviter de devenir prisonnier du silence désespéré de l'autisme, il doit s'identifier avec ce qui existe à l'extérieur, au-delà de lui, avec ce qui est plus vaste que lui. S'il est faible ou si on ne lui offre rien de mieux, il s'identifie avec l'inconscient collectif. C'est l'esprit des masses qui produit des cultes, les croyances, les modes et les enthousiasmes passagers, la joie de prestige, le conformisme, les idées reçues, la publicité, la culture pop, tous les ismes, toutes les idéologies, toutes les formes creuses de la communication et de l'être ensemble qui empêchent toute réelle communion ou tout vrai partage. Le moi qui accepte ces formes creuses devient un membre de la foule solitaire. Or, pour éviter cela, pour réussir à véritablement communier, il faut se tourner vers l'intérieur, s'éloigner de la foule, remonter à la source. Il faut s'identifier aux grands espaces profondément enfouis en soi, aux vastes territoires inexplorés du moi, l'inconscient collectif, et c'est en ces lieux que nous nous rencontrons tous.
À l'école, mes maisons étaient toutes carrées et sans perspective.
Je faisais des demi-cercles pour la fumée d'une cheminée. J'ai appris à dessiner des maisons que je n'habitais pas et que je n'habiterai jamais. Je faisais des demi-cercles pour la fumée d'un intérieur en feu. Les battements de cils de l'œilleton ne balayent plus le couloir. Il reste un trou au milieu. J'aurais pu dessiner l'enfer au pied de cette grue sans plume. Un trou dans le paysage, comme une goutte de javel fracasse une photo. Ça devient exactement le portrait du silence. Il reste un trou, encadré par deux grosses barres liées au même destin, sur les faces desquelles courent des coursives, comme les partitions d'une musique en pleine décomposition. Il restera des trous, c'est à travers eux que le monde feindra de ne pas nous voir. Et c'est contre eux qu'on pliera nos doigts en haut-parleur pour les you-you, la musique, le bruit, les surnoms, les slogans, les nachaves et la poésie. Tu es un monde sans visage, tu n'es qu'une image, tu n'existes plus. Il suffit de deux poumons pour commencer à cracher. J'aiguise une clope comme on prépare un stylo à la mine fraise, du fusain, un fusil, des cendres, une fusée, du fusain encore et le bout du fusil. Meriem Baya Arfaoui, les coursives.
Menstruel, adjectif.
Cavaleuse, Fisionne, substantif.
Qui a rapport au menstrue.
Argot.
Éclaté, verbe intransitif.
Clandestine, adjectif.
Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
La séance de gym est terminée pour aujourd'hui. Vous avez entendu le 76e épisode des menstruels, collectif de correspondance à voix multiples que nous retrouvons régulièrement dans nos émissions. Pour écouter les menstruels, rendez-vous sur leur audioblog et pour plus de sueur, rendez-vous dans les archives de gymnastique sonore sur canalb.fr.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.